Bonjour bien-aimé. Merci pour cette première partie de notre culte. Louange et adoration à notre Dieu, reconnaissance pour sa grâce. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Même dans l'épreuve, sa présence ne nous fait pas défaut. Dans la dernière partie de cette adoration de ce matin, Eric a mentionné un certain nombre de choses et qui cadre avec ce que quelqu'une qui s'appelle Marie-Noël van der Rek, c'est une enseignante de théologie du milieu mennonite. Tu peux afficher, s'il te plaît, si tu as la diapo. J'étais avec elle dans une conférence et elle a dit quelque chose que j'ai déjà dit, que je vais rappeler ici et qui va me servir d'introduction pour que nous puissions aborder la méditation de ce matin. Ce qu'elle a dit, c'est que dans beaucoup d'églises et en particulier dans les églises en Occident, l'horizon de la prédication est souvent très limité, c'est-à-dire la façon dont on prêche, les thèmes sur lesquels on prêche. Elle dit qu'elle parle de ce qu'elle appelle comme une maladie qu'elle appelle le glaucome. Donc, c'est cette maladie qui diminue le champ de vision. Et souvent, elle a l'impression que le champ de vision dans lequel nous adressons notre foi chrétienne est très restreinte. Et elle fait trois observations sur ce qu'elle appelle les symptômes de cette maladie. Elle dit que la première des choses qu'elle peut observer, elle, c'est que d'une part, on a pris l'habitude de faire une lecture individualiste des Écritures sans tenir compte de la dimension communautaire. On parle que du chrétien, on parle très rarement des chrétiens ensemble. Il semble que ça, on essaie de faire l'effort ici. La deuxième chose qu'elle dit par rapport à ce symptôme, c'est que les prédications se concentrent sur le processus intérieur, hein, ce qui concerne la vie du chrétien et plus souvent la dimension verticale. Le chrétien et Dieu, et que trop souvent la question du chrétien et de son prochain, du chrétien dans la société, n'est pas souvent abordé avec assez de pertinence ou en tout cas de régularité. Et enfin, le troisième symptôme qu'elle appelle toujours le glaucome spirituel, c'est qu'on a tendance à considérer notre style de vie, en tout cas en Occident, comme normal. Elle dit que cette normalité, malgré qu'il y ait Internet, malgré qu'il y ait la télévision, malgré qu'il y ait les journaux, parfois cette normalité nous laisse l'impression que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Eric a rappelé quelques éléments ce matin. Il y a la pauvreté qui est à nos portes. Elle n'est pas loin, elle est là, dans nos rues aussi. Elle est sans abri. Et elle dit que parfois, même quand on est au contact de cette réalité, c'est comme si nous avons mis finalement une glace, et cette réalité ne nous impacte pas en fait. Ou elle nous impacte très peu. Parce que derrière, ce qu'elle constate, elle, son constat n'est pas forcément parole de Dieu, mais c'est que derrière, elle aurait souhaité tellement que les chrétiens et les églises bougent beaucoup plus. C'est un constat qui n'est pas partagé par tout le monde, bien sûr, mais ce qui me permet de faire le lien, c'est ce qu'Éric a dit, que j'ai mentionné moi aussi ici. Cet été, nous avons été tous témoins de tout ce qui se passe dans notre sphère, n'est-ce pas? Il y a eu toutes ces vagues de chaleur, tous ces feux de forêt, un peu partout en Europe. Ça ne s'arrêtait pas. Des familles ont tout perdu, des gens ont dû fuir. Aux États-Unis, pareil. À Hawaï, pareil. Tout récemment, c'est le Maroc qui a été frappé par ce séisme qu'on n'a jamais vu depuis plus d'un demi-siècle. Une inondation sans précédent en Libye qui, en une journée, a dévasté une bonne partie de ce pays avec des milliers de morts et de corps qu'on n'a pas retrouvés. Dans le même temps, il y a cette guerre qui s'est redéclenchée à nouveau en Arménie, en Azerbaïdjan. Et puis, dans la journée d'hier aujourd'hui, il y a cette reprise de ce conflit palestino-israélien. Et là, depuis ce matin, il y a le séisme qui a frappé l'Afghanistan aussi, avec des milliers de morts. Sans compter tout ce qui se passe sur l'autre continent, le continent africain, avec le Burkina Faso, avec le Mali, avec le Niger, avec le Gabon, avec le Congo. Tout va bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Bah, c'est ce qu'on peut croire. Et c'est vrai qu'on est impuissant, en fait. Et la façon dont nous réagissons montre notre impuissance quelque part. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans toute cette affaire? Bah, les amis, c'est ce qu'Éric a commencé de faire. C'est ce que nous faisons les mardis. On peut commencer par prier. On peut prier. Si les chrétiens ne croient plus que la prière est capable de permettre à Dieu d'agir dans des circonstances où nous ne pouvons rien faire, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Si nous ne sommes plus convaincus que formuler une prière à Dieu a une utilité dans la main de Dieu pour intervenir là où nous ne pouvons rien faire, qu'est-ce qu'on fait là? Les chrétiens, nos aînés, les chrétiens du premier siècle étaient convaincus de cette affaire. Ils étaient convaincus de cette affaire. Et plusieurs d'entre vous, vous en êtes convaincus. Et je veux que nous puissions peut-être prendre quelques minutes pour prier. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons encore prier pour le Maroc, notre Dieu. Nous voulons prier pour toutes ces populations. Nous voulons prier pour tout cet élan de générosité qui se manifeste partout le monde entier. Merci pour cette mobilisation. Merci pour la Libye aussi, Seigneur notre Dieu. Tout à l'heure, on a prié pour l'Arménie, mais je veux prier aussi pour l'Azerbaïdjan, l'autre pays en conflit. Nous voulons prier aussi pour la Palestine. Il y a des êtres humains dans ce pays. Nous voulons te les confier. Nous voulons prier pour l'Afghanistan. Seigneur, nous te confions le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Gabon, le Congo, toutes ces situations qui ont besoin de ton intervention. Car sans toi, aucune mobilisation ne peut être assez conséquente pour aider. Seigneur, viens au secours. C'est là que le peuple de Dieu dit, Seigneur, viens au secours. Tu dis, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et prie, et crie à moi, je guérirai son pays. Au travers de la bouche de prophète, tu as dit, même Israël en exil, tu as encouragé Israël en exil à prier pour le pays qu'il avait pris en captivité. Car tu as dit, car ta paix dépend de la paix du pays là où tu vis. Seigneur, nous voulons te prier pour la France. Nous voulons te confier ce pays où nous vivons. Nous voulons te confier les autorités. Nous voulons confier, Seigneur, tous ceux qui ont une parcelle de décision. Que ta sagesse leur soit accordée pour qu'ils se soucient de l'humain, de la société. Et que là où il y a besoin que toi, tu interviennes de façon extraordinaire, s'il te plaît, fais-le, notre Dieu. Te bénissons. Nous nous attendons à toi, nous crions à toi et nous savons que c'est ton monde et que toi tu en prends soin. Merci de te manifester, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu as conscience, est-ce que j'ai conscience de que j'ai un impact sur le monde? Souvent on se dit, mais quel impact moi je peux avoir sur le monde? Est-ce que ma vie peut compter? Nous sommes 7 milliards d'habitants. Et on s'est dit, mais je suis pas Steve Jobs, je suis pas un grand inventeur. Qu'est-ce que ma petite vie, souvent on qualifie, petite vie peut faire? La Bible dit que toutes les vies ont un prix aux yeux de Dieu. et qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande vie, puisque la parole de Dieu dit qu'il connaît chacun de nous par son nom et que même qu'il connaît tous les nombres des cheveux qui sont sur la tête de chacun de nous. C'est incroyable ça. Ce grand Dieu créateur de l'univers me connaît, te connaît. Le prophète dit, même avant que je fusse conçu, tu me connaissais. Quand j'étais dans le sein de ma mère, tu me voyais, tu me connaissais. Donc ça veut dire que d'une façon simple, ta vie compte aux yeux de Dieu. Donc ta vie a un impact dans le monde. C'est pas juste un effet de, comme on dit là, c'est pas une pensée positive, ça a rien à voir. C'est une vérité biblique. C'est une vérité biblique. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions réfléchir sur ce thème. Vivez en paix les uns avec les autres. Vas-y, Aurélien. Ce monde a besoin de paix. Ayez le sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. On parle de guerre, les bien-aimés. Quand c'est le début d'une guerre, tout le monde est alerté. Quand ça a commencé en Ukraine, il y a un an, on était tous affolés, tous engagés. Maintenant, c'est passé dans la normalité, n'est-ce pas ? Pour la majorité d'entre nous, sauf pour les Ukrainiens, bien sûr. Pour nous autres qui venons de contexte de guerre, on sait ce que c'est. Parce qu'on a été victime de la guerre. Donc, on sait les impacts que ça peut avoir. Mais les guerres ne naissent pas comme ça. Ce n'est pas des générations spontanées. C'est le cœur de l'homme. C'est la dureté du cœur de l'homme, c'est la méchanceté du cœur de l'homme, c'est l'orgueil du cœur de l'homme. C'est le péché en fait. Les guerres sont les conséquences du péché. Et le Seigneur Jésus, dans cet évangile de Marc, alors qu'il parlait des plus petits, à la fin de cette section du Marc chapitre 9, verset 50-51, il dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi ?» L'assaisonnerez-vous. Dans cette culture, le sel avait non seulement la valeur de rendre un peu moins insipide la nourriture, mais elle permettait aussi de conserver les aliments. Il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélateur, et le sel était un conservateur. Il dit, si vous n'avez plus de sel pour conserver les aliments, si même ce sel que vous allez prendre pour mettre dans la sauce pour lui donner un goût n'est plus salé, qu'est-ce que vous allez faire? Il parle des chrétiens quand il dit ça. Parce qu'il a déjà dit un peu plus tôt dans la bouche de Matthieu, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, vous êtes le sel de la terre. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. C'est pas une exhortation, c'est pas un vœu pieux, c'est un commandement du Seigneur. L'apôtre Paul va le dire un peu plus loin, dans l'une de ses épîtres, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vivez en paix entre vous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. Ça paraît énorme ça. Il s'adresse encore à des chrétiens en disant ça. Vivez en paix entre vous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. La guerre fait partie de ce théorème-là. La guerre, c'est le mal qu'on rend par le mal. C'est ça qui est la guerre. La guerre, c'est ça. La guerre, c'est ça. La guerre, c'est ça. La guerre, c'est ça. Mais en toute occasion, on dit Paul, des fois l'apôtre Paul, il est dans l'absolu des choses. Mais parce que cet apôtre a eu la révélation que quand Dieu s'investit dans la vie d'un homme, d'une femme, il la change, il le change. Il change son cœur de pierre en cœur de chair. Il change son cœur dur en cœur malléable. Est-ce que c'est vrai tout le temps? J'en sais rien. Je me pose des questions des fois sur moi-même. En tant que chrétien, on pose des questions. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit le prophète. Un cœur endurci, c'est un cœur qui entend bien une parole, mais qui dit tu ne rentreras pas dedans. j'entends ce que tu dis, Seigneur, mais c'est trop fort, c'est trop dur. Je ne peux pas, mais en fait, c'est pas toujours je ne peux pas. Quelque part, c'est je ne veux même pas m'ouvrir à ça. Je ne parle pas de façon légère. Je parle de quelqu'un qui est concerné au premier degré. Romains chapitre 15, verset 4 à 7, il dit que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Il dit conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Et malgré ça, il dit que Dieu le Père, même si c'est Jésus qui l'a enseigné, que Dieu le Père vienne encore à votre secours, à notre secours, et lui qui le fait avec tant de patience et tant de réconfort, et qu'il nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. Il dit ça aux Romains, chapitre 15. Mais on sait qu'il s'adresse à nous aussi. Vas-y, frère. La paix, quelques éléments pour définir la paix finalement. Dans l'Ancien Testament, le mot utilisé pour paix, l'un des mots, c'est shalom, qui veut dire perfection, qui veut dire santé, qui veut dire bien-être. Et des fois aussi, il est désigné comme le bien-être spirituel, qui est associé à la justice et à la vérité, que Dieu te donne son shalom, sa justice et sa vérité. Le sacrifice de Christ pour le péché apporte aux hommes la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Le texte dit que c'est meurtre su que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés et que Dieu à nouveau est en accord avec nous car notre péché nous séparait de lui et que Christ a payé pour notre péché et du coup il nous a réconciliés avec Dieu. L'inimitié qui était entre nous et Dieu, la distance, le palabre qui était entre nous et Dieu, Christ l'a résolu et du coup nous sommes désormais en paix avec Dieu, si nous avons accepté Christ dans notre cœur. Jésus est mort pour faire quoi? Pour créer la paix entre les hommes. C'est incroyable. Il est mort pour créer la paix entre les hommes. Non seulement il rétablit la paix avec Dieu, mais il rétablit aussi la paix entre nous. Le frère qui a prié tout à l'heure et qui a dit, ah, je comprends ce qu'on appelle une ordonnance pour aller chez le pharmacien pour acheter le remède qui va apporter une solution à ma maladie. Et il a dit dans sa prière, Jésus est le remède, n'est-ce pas? Mais de quel remède parlons-nous? Parfois, il me semble qu'il nous faut revenir à ce que c'est que d'être sauvé. Être sauvé, certes, c'est pour aller au ciel, pour échapper en l'enfer. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce jugement-là, aucun être humain ne peut s'en sortir indemne s'il n'a le Seigneur Jésus dans son cœur. Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, il n'y en a même pas un seul. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'en Christ, Dieu justifie tout homme, toute femme, tout jeune, tout seigneur, toute personne qui reconnaît son péché, qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me sauver. » Oui, il s'agit de cela. Mais ce remède aussi, c'est que nos cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair. C'est ça le remède de notre monde. Ce monde a besoin d'hommes et de femmes changés, dont les cœurs sont pétris de la mort de Dieu, malléable entre les mains de Dieu. C'est pas simple. Jésus nous a montré le chemin, ça n'a pas été simple pour lui. La Bible dit qu'il a obéi, de la plus absolue des façons, mais dans un contexte terrible. Le soir, la veille de l'ultime sacrifice, à Gethsémané, il a fait cette prière qui reste une prière trop forte. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Quand il a commencé son ministère, on entend la voix de Dieu le Père du ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection. Il avait rien encore commencé, c'était juste son baptême. Et cette confiance, il a gardé jusqu'à Gethsémané. Et même quand il a fait cette prière, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il a dit, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'est la volonté du Père qu'il a accomplie. Il est mort comme le pire des criminels, lui qui était sans péché. Il n'y avait aucun acte juridique pour le condamner. On a monté l'accusation de toutes pièces. Et il ne s'est pas défendu. Parce qu'Ésaïe a dit de lui comme un mouton qu'on met dans l'abattoir, il n'a dit aucun mot. Il a dit une seule chose quand cette autorité politique lui a dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ?» Il dit « Tu n'as aucun pouvoir sinon celui qui t'a été donné. » Et c'est pour cette heure que je suis venu et il s'est tué. Il aurait pu se défendre, le Jésus. Et bien se défendre d'ailleurs. Et il a dit à plusieurs reprises, il dit « Qui me convaincra de péché parmi vous ?» Il a dit ça à ses détracteurs. Il dit « Qui me convaincra de péché ?» Qui me dira dans cet Israël, dans cette Palestine, si j'ai une fois commis un péché, il dit « Je mets quiconque au défi. » Et il dit « Si vous ne croyez pas à moi, croyez aux œuvres que vous m'avez vu faites. » Et toutes ces œuvres étaient des œuvres de bien. Toutes ces œuvres étaient des œuvres de bien. Toutes ces œuvres étaient des œuvres de bien. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit « Ce que vous m'avez vu faire, c'est ce que vous devez faire aussi. » Il dit bien plus, vous avez une grâce extraordinaire. Je vous ai envoyé le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit aux 12, restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Quand l'Esprit viendra, il vous donnera ce qu'il faut pour que vous soyez mes témoins. Amen. Que Dieu nous aide, les bien-aimés. Vas-y, Aurélien. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa grâce. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et que même pour nous chrétiens, parfois, vivre en paix les uns avec les autres, c'est un grand défi, n'est-ce pas? C'est un grand défi. Qu'on soit en famille, qu'on soit en couple, qu'on soit dans des fratries chrétiennes, parfois c'est un grand défi de vivre en paix. Parce qu'on est des êtres humains et que le péché s'attache à nous. Et que forcément, on se blesse, on se fait mal. Mais Dieu, il sait ça. Dieu, il sait ce que nous sommes. Dieu, il ne nous prend pas pour ce que nous ne sommes pas. Il dit, je sais, car vous êtes poussière et le péché s'attache à vous. Mais malgré ça, il dit, je vous fais confiance. Non seulement je vous fais confiance, mais je me suis investi en vous. C'est pour cela, en m'investissant en vous, le prophète a dit qu'à la Pentecôte, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a réalisé cette promesse que nos cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair, et c'est une réalité. Amen. Des fois, c'est notre nature humaine aussi qui remonte au-dessus. C'est notre propre moi qui remonte au-dessus et qui fait qu'on n'est pas toujours libéré. Mais la Bible dit effectivement, cette chair, notre nature humaine, on en sera libéré quand Jésus reviendra. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans une de ses épîtres, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si vous êtes né par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Donc c'est une marche, c'est un effort. S'il y a effort, ça veut dire qu'il y a difficulté. Ça veut dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, ce n'est pas donné. Il ne faut pas croire que c'est donné. Il ne faut pas croire que c'est simple. Mais il faut croire que Dieu dit c'est possible. Que Dieu dit c'est possible. Et que lui, il a payé le prix pour ça. La confiance, c'est ça. Seigneur, tu l'as dit, c'est vrai. Je m'ouvre à ça. Tu vas le faire. Souvent, on articule cette prière si facilement. Seigneur, pas moi-même, mais toi. Mais laisse-le faire alors. Souvent, c'est facile de dire ça. Maintenant, quand il dit « laisse-moi faire », on dit « wow, te laisser faire, c'est pas si simple que ça. » Parce que là, il y a mon moi qui est dedans, qui est là. Il y a mon moi qui est là, qui dit « wow, non, Et le Seigneur dit, lâche. Tu entends bien qu'il dit lâche. Mais tu tiens. Lâcher, ça coûte quelque chose. Puisqu'on perd un peu de soi-même, puisqu'on perd quelque chose, on perd sa dignité, on perd une petite fierté, on perd quelque chose quand on lâche. On perd quelque chose. Et nous n'aimons pas être des perdants. Même vis-à-vis de Dieu, on n'aime pas perdre. Ça me rappelle quelqu'un. Ça s'appelle Jacob. À Péniel, on dit qu'il a lutté avec Dieu. Saisis cette apparition de Dieu. Il dit, je ne te lâche pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et Dieu dit, tu ne peux pas gagner avec moi. Tu ne peux pas gagner contre moi. Il dit, ce n'est pas grave, mais je ne te lâche pas. Il a perdu ce combat parce que personne ne peut gagner contre Dieu. Mais sa persévérance a ému le Seigneur et le Seigneur lui a dit, désormais tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Mais pour montrer que tu as perdu, je te rends handicapé de la hanche. Tu te souviendras toujours que ce n'est pas grâce que je t'ai fait ce privilège. Ce n'est pas toi qui en as porté sur moi. La Bible dit que quelqu'un qui s'appelle David, quand Dieu a décidé d'enlever la royauté au roi Saül et qu'il a envoyé Samuel, Samuel allait dans la maison d'Isaïe. Isaïe a fait sortir ses garçons. Et à chaque fois, l'Éternel disait, c'est pas lui. Et puis Samuel dit, mais t'as un garçon quelque part, parce qu'apparemment, tous tes garçons, c'est pas eux que Dieu a choisi. Il dit, ah si, il y a un petit, il s'appelle David, mais il est derrière les moutons. On va le chercher. Et la Bible dit, quand il est venu, il était un peu spécial, hein, puisque certaines versions disent qu'il avait les cheveux roux, donc voilà, c'était un petit garçon un peu particulier. Et l'Esprit dit à Samuel, c'est lui. Et Samuel a fait ce qu'il fallait faire, l'onction, et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Samuel, il ne l'a plus jamais, descendu sur David, il ne l'a plus jamais quitté. Waouh! L'Esprit de Dieu est descendu sur David, et l'Esprit de Dieu ne l'a plus jamais quitté. Et David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'est un homme qui, dans les pires de ses bêtises, lorsqu'il entend la voix de Dieu, il dit, Seigneur, tu as raison, là je me suis planté. Là j'ai fait une grosse polée. J'ai péché contre toi, contre le ciel. Psaume 51, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis même plus digne d'être appelé ton enfant. Mais je sais que tu es un Dieu de grâce. Et dans l'un des psaumes, le psaume va dire, pendant tant que je gardais mon péché, tant que je gardais, mes os se consumaient au-dedans de moi. Mais quand je les ai confessés, ma délivrance a été là. Alléluia. Que Dieu nous aide. Des fois, alors que la Bible nous exhorte, par exemple, Romains 14, 13, ne vous jugez pas les uns les autres. Jacques 5, 9, ne vous plaignez pas les uns des autres. Jacques 4, 11, Zacharie 8, 17, ne méditez pas, ne médisez pas, ne calomniez pas, ne parlez pas mal les uns des autres. Colossiens 3, 9, ne mentez pas les uns aux autres. Galates 5, 15, 26, ne vous mordez pas, ne vous provoquez pas, ne vous jalousez pas les uns les autres. Le texte de Galates est un texte fort. Les connaisseurs, les spécialistes disent en grec, en fait, les mots qui sont utilisés, c'est des mots qu'on utilise dans le règne animal. Quand l'apôtre Paul dit « ne vous mordez pas », en fait, ce n'est pas un thème qu'on utilise pour les humains, on utilise ça pour les animaux. C'est comme s'il dit « ne soyez pas des bêtes sauvages, ne soyez pas des bêtes féroces entre vous, en train de vous déchiqueter, de vous dévorer ». C'est ça la guerre. La guerre, c'est ça. Mais la guerre ne commence pas avec des armes, la guerre commence dans le cœur des hommes. La guerre commence dans nos cœurs. La seule chose qu'on a envie, c'est de découdre avec l'autre. La néantie. Que Dieu nous aide. Parfois, les relations peuvent être exécrables. Mais c'est pas là qu'il faut abandonner, n'est-ce pas? Sinon, Christ est mort pour rien, les bien-aimés. Sinon, Christ est mort pour rien. Quand l'apôtre Paul dit souvent, sinon Christ est mort en vain, c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, il y a des combats. Si on laisse pas Christ le faire, si on donne pas la permission à Christ d'y rentrer, si on persévère pas pour que Christ nous transforme, il nous donne la possibilité de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Christ est mort pour rien. C'est-à-dire cette puissance dont on parle là, en fait, elle n'est pas une puissance finalement. On aime bien parler de la puissance du Seigneur dans nos cœurs, mais où est-elle? Si elle n'est pas capable de nous changer, si elle n'est pas capable de nous bouger, si elle n'est pas capable de nous faire capituler et de laisser à nouveau nous relever. Le texte dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne peut pas germer. C'est un principe de l'agriculture. La graine, quand on met en terre, elle doit mourir. Elle doit pourrir. Et ensuite, de cette décomposition, la nouvelle pousse. Et puis ça donne un arbus ou bien une nouvelle fleur et qui est encore plus belle que la graine qui a été mise dans le sol. Alléluia. Que Dieu nous aide. Moi le premier.
Vas-y s'il te plaît.
Oui, au-delà de l'absence de conflit, parfois on pense que quand il n'y a pas de conflit, une communauté vivant en paix serait celle où la bonté, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre, c'est quelqu'un comme Martin Luther King Jr. qui a dit, il dit la vraie paix, c'est pas l'absence de conflit. Il parlait de son pays où le pays n'était pas en guerre, mais il dit, c'est vrai, on n'est pas en guerre aux États-Unis à cette époque-là, mais quand même, il y a un manque de justice. Donc, il n'y a pas la paix. Et il dit, enfin, cette expression, il dit, une communauté vivant en paix serait celle où la bonté et le support mutuel montreraient concrètement l'amour de Dieu. Et ça montre que Dieu a implanté son amour dans nos cœurs et que nous sommes des rachetés. Parce que la bonté serait là régulièrement, massivement, pleinement. Et qu'en plus, on aurait la force de se supporter les uns les autres. Dans la parole de Dieu, il y a cet accent qui est mis régulièrement. Supportez-vous les uns les autres. Dieu sait qui on est. Il sait que parfois on est insupportable. Il sait. Lui-même, des fois, mettez-vous à la place de Dieu. Quand vous avez mal au cœur pour quelqu'un ou pour quelqu'un qui vous a fait quelque chose, mettez-vous à la place de Dieu et dites-vous, ça fait des millions d'années que des milliards de personnes font ça à Dieu. Chaque jour, nous tous là, on fait ça à Dieu. Et Dieu, s'il était ce qu'il n'est pas, il nous extermine tous. Il nous prend chacun là, il nous corrige chacun chaque jour. C'est ce qu'on a envie de faire à quelqu'un qui nous a fait du mal. On a envie de lui montrer qu'il a tort. Si Dieu voulait faire ça chaque jour de chacun d'entre nous, on dit qu'il est patient. Qu'il est patient. Car il est lent à la colère et riche en bonté. Et l'apôtre Pierre dit, si vous pensez que Dieu tarde, mais il tarde pour votre bien. Il tarde pour votre bien.
Il tarde pour votre bien. Vas-y, s'il te plaît.
Ouais. L'apôtre Paul dit, je demande que votre amour grandisse de plus en plus. Il parle aux Philippiens, et c'est ce qu'il dit aux Philippiens. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus.
Mais le texte, et on est dans Philippiens,
chapitre 1. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Et j'ai mis une autre version. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Et j'ai mis une autre version. De plus en plus en clairvoyance, en pleine intelligence pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Je l'ai traduit encore, avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Tu sais, je me permets de te tutoyer, je me parle à moi-même. Nos vies peuvent avoir un impact sur le monde entier. Si nous laissons Jésus vraiment nous transformer en des êtres, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, pétris de l'amour de Dieu, alors oui, notre vie va impacter des gens de façon incroyable. Jacob, je ne sais pas comment il est ce Jacob, mais dans Genèse, chapitre 45 jusqu'au chapitre 49, où il sait que sa vie est en train de finir, et on dit à son fils Joseph que ton père est gravement malade. Et Joseph sait que c'est vers la fin. Et Joseph va avec ses deux enfants. Et Jacob dit, Dieu m'a dit qu'il va vous bénir. Même si actuellement vous êtes dans un contexte un peu délicat, mais ça va arriver. Il dit, je vais vous bénir maintenant pour que quand ça arrive, ces bénédictions portent de fruits. Et Jacob est mort sans avoir vu ça. Il est mort sans avoir vu ça. Mais il était convaincu que ça allait se faire. Et ça s'est fait. Il a béni ses 12 enfants parce qu'il connaissait chacun d'eux avec la grâce d'un père en disant, je vous bénis pour que vos jours soient des jours bénis par Dieu. Si on est des parents, peu importe l'âge de nos enfants, continuons de les bénir parce que cet impact que nous avons sur nos enfants, c'est dans le monde que cet impact se manifeste parce qu'ils font partie des 7 milliards d'habitants. Si nous sommes des femmes et des hommes simples, mais petits de l'amour de Dieu, ce que nous faisons, ce que nous disons, impacte notre monde. Peu importe si nous envoyons les résultats ou pas, c'est pas ça qui est important, c'est ce que Dieu t'a dit d'être, sois-le, fais ce que Dieu t'a dit de faire, lui, il voit les impacts au nom de Jésus. Amen. Jacob a impacté ses 12 enfants qui ont impacté leurs 70 descendants et leurs 70 descendants quand ils sortaient d'Égypte, ils étaient 2 millions. Ils étaient 2 millions quand ils sortaient d'Égypte. 2 millions. On dit ceux qui sont arrivés à Goshen, ils étaient 70. Et quand ils partaient, ils étaient 2 millions. Waouh, 2 millions. Un peuple nombreux. Mais qui a gardé la pensée de l'Éternel et les valeurs de l'Éternel. Vas-y, s'il te plaît. Oui, les bien-aimés, vivre en paix, mes amis. C'est quelqu'un qui l'a dit, je répète. Vivre en paix, mes amis, c'est d'abord une affaire de volonté. C'est pas que Dieu va tout faire, non. Dieu nous confie cette charge. Il dit, heureux les artisans de paix. Il parle de nous, ses enfants. C'est une affaire d'effort de l'esprit. Ça se passe ici aussi. Vivre en paix, mes amis, implique aussi des engagements, une attitude, un discours qui soit pour les autres une excitation, une stimulation pour nous exciter tous à l'amour et aux bonnes œuvres. Que Dieu nous aide. Vas-y, Aurélien. Quelle application? As-tu la paix avec Dieu? As-tu fait la paix avec Dieu? Si oui, gloire à Jésus. Sinon, il n'est pas tard. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends la voix de ton Dieu, donne-lui ta vie. As-tu la paix du cœur? La Bible dit que là, Jésus dit, la paix que je ne donne pas ma paix comme les gens du monde. Moi, ma paix, quand tu l'as, elle dépasse les situations, les événements. Même quand il y a des épreuves, il y a une paix qui te rassure. Parce que cette paix, c'est ma présence. C'est cette confiance que tu as en moi, que je suis là. Même quand tout semble s'écrouler, je sais que tu es là. Êtes-vous en paix avec vous-même? Ça, c'est important aussi. Hein? Le psalmiste, il a résolu le problème. Il dit, car je sais que je suis une créature bien merveilleuse. Il a résolu son problème. Je sais qui je suis en Christ. Christ m'a donné une nouvelle identité. Je suis une créature bien merveilleuse. Ce n'est pas mes défauts qui me qualifient, ce n'est pas mes qualités qui me qualifient, c'est ce que je suis. Je suis un être humain créé à l'image de Dieu et ça veut dire déjà beaucoup. Notre société, il y a des échelles. C'est les échelles sociales, c'est les échelles financières, c'est les échelles esthétiques. Permettez-moi du thème, en griffe, Dieu, il s'en fout. Tu es ce que tu es et Dieu t'aime comme ça. Alléluia. Que Dieu nous aide à être en paix avec nous-mêmes. C'est vrai que des fois, il y a des choses à régler. Il faut les régler aussi, mais Dieu veut t'aider à les régler. pour que justement tu continues à être en paix avec toi-même.
On va rester là. Reviens sur la diapo et on va rester là pour cette prédication. Ah, on va rester là pour cette prédication ce matin. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de croire qu'il est là, que sa puissance est effective, que le Saint-Esprit est là pour nous et que son but dans nos vies, c'est de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je rentrerai, je viendrai souper avec toi. Ça veut dire habiter avec toi, vivre avec toi, faire chemin avec toi, être dans ta maison pour tout le temps. Et Dieu veut faire ça. Et moi, je dis au Seigneur, Seigneur, je veux ça. Mais en fait, c'est pas je veux, il a déjà fait. Le jour où tu t'es donné à Dieu, il a déjà fait ça. Il est là en toi, il est là en nous. Et il nous encourage. S'il est possible, autant que cela dépend de chacun de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Soyons en paix avec tous les hommes. On parle de guerre, on est à chaque fois qu'il y a un bruit de guerre, on est là, on dit, mais comment ça arrive? Mais ça arrive parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et nous les chrétiens, si on veut être un remède entre les mains de Dieu, bah, laissons Dieu changer nos cœurs. Parce que si nos couples, si nos familles sont des enjeux de tension, de palabres, de guerre, bah, comment on peut parler des autres? C'est pas possible. On peut pas parler des autres parce que nous-mêmes, ça va pas. Nous-mêmes, on est en guerre, mais on est des chrétiens en même temps. Oh! Il y a un problème là. Il y a un problème. On va prier. Prie dans ton cœur ce matin. Prenons quelques minutes, chacun pour sa part, devant Dieu. Prie ton Dieu, mon frère. Prie ton Dieu, ma sœur. Devant ton Seigneur, dans cette présence, l'Esprit de Dieu, tu sais. Moi, j'ai prêché. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Et je lutte avec ça et je suis devant lui. Je ne sais pas pour toi. Mais comme nous, les chrétiens, on me dit qu'il n'y a rien de hasard, c'est que si tu es là et que tu entends cette prédication, il y a bien quelque chose que Dieu veut faire avec ça dans ta vie. Il y a bien quelque chose que Dieu veut faire ça dans ta vie. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Prions. Prions. Te bénissons, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi. On a besoin de toi. Le monde, notre monde, ces derniers mois-ci est beaucoup bousculé, Seigneur. Trop d'événements s'enchaînent. Ça nous interpelle. Tu dis que ces signes qui ressemblent au signe de la fin des temps. Et qu'un autre signe de la fin des temps, c'est que l'amour du grand nombre sera refroidi. Que tu nous aides à ne pas être de ceux dont l'amour est refroidi, mais de ceux dont l'amour se réchauffe. Seigneur, voici nos cœurs devant toi. Moi, je te demande de faire ton miracle. Ce miracle de ta présence, manifeste-toi puissamment, Esprit de Dieu, s'il te plaît, dans nos vies. Nous avons besoin que tu te manifestes. En Jésus-Christ.
Merci pour le message de la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais demander à quelqu'un de disponible qui veut bien prendre le panier qui est tout au fond, juste pour passer pour les offrandes. Et je demandais à notre frère Emile de se préparer pour la bénédiction, les offrandes, et notre frère Claude juste après pour les annonces.